La mort du héros. Le médecin-major ne comprenait pas. Il eut un mouvement de tête agacé et jeta par-dessus son binocle un coup d'œil interrogateur à son assistant. L'aide-major, un blondinet timide qui s'efforçait de prendre une attitude militaire, se taisait, n'ayant pas compris davantage. L'ordonnance, debout au pied du lit, paraissait seule avoir quelque compréhension des hallucinations de son maître, car deux larmes brillaient aux pointes de ses moustaches effilées aux cosmétiques. Mais l'homme ne parlait que le hongrois, et le médecin-major le planta là.
« Abruti !»
grogna-t-il en s'éloignant à pas lourd, soufflant comme un phoque vers la salle d'opération, tandis que l'aide-major, avec sa blondeur de pain doré, trottinait martialement derrière lui. Les docteurs, une fois partis, la monstrueuse boule d'ouate, qui d'après la pancarte accrochée au lit contenait la tête du lieutenant Otto Kadar du 1e régiment d'artillerie de campagne, retomba sur les oreillers. Miska se rassit sur son sac, renifla et, la tête dans ses larges mains sales, se mit à considérer l'avenir avec désespoir. L'affaire était claire, son lieutenant n'en avait plus pour longtemps. Miska savait ce que dissimulait la boule d'ouate. Il avait vu le crâne défoncé et l'horrible bouillie blanchâtre pleine de débris rouges, la cervelle de son pauvre monsieur le lieutenant. Miska ne retrouverait jamais si bon maître, si brave homme, on n'avait pas deux fois une chance pareille. Les belles rondelles de salami que souvent, si souvent son lieutenant lui donnait sur ses provisions, les douces et chaudes paroles qu'il l'avait entendues murmurer aux blessés, les souvenirs revenaient, souvenirs des temps sanglants qu'il avait vécus en vrai camarade auprès de son maître. Miska s'apitoyait sur lui-même, sur sa faiblesse irrémédiable devant le botte-cul infernal qui allait le réexpédier là-bas, dans l'écrase chrétien, sans avoir près de lui la surprotection de son monsieur le lieutenant. Sa grosse tête de paysan dans ses poings, il était comme un chien couché au pied de son maître mourant, et ses larmes roulaient, s'accrochant une à une à ses moustaches gominées et poussiéreuses. Ce qu'il n'arrivait pas à comprendre, c'était pourquoi le lieutenant criait comme un malheureux à propos de son gramophone. Miska savait simplement que les officiers étaient assis dans leur abri, écoutant la marche de Rakowski avec le gramophone de son maître, quand ce gueusard d'obus avait déboulé d'un coup en sifflant, ensevelissant tout dans un fracas à vous assassiner les oreilles. Il n'y avait vu que du feu, Miska. Une planche venue du ciel lui avait frappé le dos avec une telle force que son souffle lui avait dit adieu et qu'il avait bien cru que ce serait pour toujours. Ensuite, Miska se souvenait vaguement d'un grand chaos dans tous les sens. Un méli-mélo de planches, de poutres effondrées, un salmigondi de sacs, de terre, de ciment, de bras, de jambes, avec du sang, en veux-tu, en voilà. Il se souvenait aussi que l'aspirant Meltzar, assis tout raide le dos à la paroi, portait à la place de la tête, sur son cou, le disque qui venait de jouer la marche de Rakowski. La tête avait fait la valise, le disque intact était planté sur sa nuque bouillonnante, pareil à une tête. Pour être horrible, c'était horrible. Miska frissonna à se souvenir sans nom. Soudain, son cœur eut un raté. Le lieutenant remettait ça. « Gramophone, que des gramophones !» Miska sauta sur ses pieds, vit l'énorme boule d'ouate se dresser péniblement, vit le seul œil que gardait son maître fixer avidement l'invisible. Que faire ? Miska restait debout, l'oreille basse. Des lits voisins, on lui lançait des regards furieux. « C'est intenable !» cria à l'autre bout de la galerie un vieux commandant grièvement blessé. « Emportez donc cet homme !» Le vieux commandant avait aboyé en allemand. Allez y comprendre quelque chose. Miska ne savait toujours pas quoi faire. Il essuya son front où perlait la sueur, et puisque son patron ne pouvait pas entendre, il expliqua au lieutenant du lit voisin que le gramophone, il n'en restait pas de quoi faire un cure-dent. Sinon lui, Miska, il ne l'aurait pas laissé, tiens. Pour que quelqu'un se l'embarque, il l'aurait emporté comme tout ce qui était propriété de monsieur le lieutenant. Personne ne répondit. Tout le long de la galerie, les officiers, comme sur ordre, avaient enfoui la tête sous leurs oreillers et ramené leur couverture par-dessus, tandis que le vieux commandant enroulait la sienne, de tête, dans son manteau taché de sang pour ne plus entendre l'horrible rire glapissant qui se changeait tantôt en cri exaspéré, tantôt en hurlement où il était question de gramophone. « Monsieur le lieutenant, je prie respectueusement, monsieur le lieutenant !» suppliait Miska en caressant de ses grosses pattes les genoux frémissants de son maître. Mais le lieutenant Kadar ne pouvait pas sentir la main lourde sur ses genoux, car l'aspirant Meltzar était assis devant lui, muni d'une tête plate, noire et circulaire, sur laquelle était gravée la marche de Rakowski. Le lieutenant s'aperçut tout à coup qu'il avait été très injuste à l'égard de ce pauvre Meltzar. Très injuste, 6 mois durant. Le pauvre garçon ne pouvait être tenu pour responsable de la sinistre bêtise qui l'habitait, ni de son patriotisme bêlant. Avec un disque de gramophone en guise de tête, comment penser avec rectitude ? Le lieutenant Kadar comprenait le sacré tour qu'on avait joué à ce pauvre aspirant Meltzar au moment de son enrôlement. On lui avait changé sa tête. La charmante tête blonde de 18 ans, on l'avait démontée et remplacée par un disque juste bon à bêler la marche de Rakowski. Tout était parfaitement clair à présent. Le pauvre gosse avait dû souffrir lorsque son lieutenant de 20 ans, son aîné, lui avait tenu des discours sur l'humanité. Quand on a un disque planté sur le cou, comment comprendre que les soldats italiens qu'on voyait passer, déchiquetés, en sang, auraient eux aussi préféré rester à la maison, mais qu'une affiche à un coin de rue les avait poliment persuadés de partir se faire écrabouiller ? Le lieutenant Kadar s'expliquait maintenant l'opposition têtue du jeune aspirant et pourquoi celui-ci écoutait tout sans broncher pour siffler à la fin la marche de Rakowski et murmurer la phrase des phrases, l'équation universelle « Ces cochons, faut les saucissonner !» Sa jeunesse n'était nullement la cause de sa déplorable impertinence, ni le fait d'être passé directement de l'école de guerre aux premières lignes. Le responsable de tout, c'était le disque du gramophone. Très mauvais pour la tête, un disque de gramophone à la place de la tête. Très mauvais! Les veines du lieutenant saillaient, son sang lui martelait les tempes. Il enrageait contre les criminels qui avaient démonté la tête de ce charmant garçon. Le plus affreux, c'était que tout le monde lui apparaissait à présent décapité comme le pauvre Meltzar. Serrant les paupières, il s'efforçait de se rappeler les traits de ses canonniers. Impossible! Plus aucun visage dans sa mémoire. Il avait vécu de longs mois avec ces hommes et voilà qu'il découvrait juste maintenant leur absence de tête. S'ils avaient porté une tête, ils s'en seraient souvenus. Non, rien que des disques de gramophone, des disques noirs, circulaires à perpétuité, qui surmontaient des tuniques sanglantes. La région de l'Isonzo s'étendit brusquement sous ses yeux, comme ces cartes topographiques qu'on voit dans les journaux illustrés. Le fleuve argenté serpentait entre les collines vérolées de trous d'obus. Sans avion, sans moteur, uniquement porté par ses bras étendus, le lieutenant survolait la mêlée. Partout où tombaient ses regards, au sommet de chaque colline, au creux de chaque vallée, partout, des pavillons de gramophones étaient installés. Des milliers de cornes d'abondance vernies bleu ciel et bordées d'or ouvraient leurs bouches vers lui. Et autour de chaque gramophone grouillait une fourmilière de canonniers transportant des obus. Le lieutenant Kadar distinguait très bien les choses à présent. Tout le monde portait sur le cou des disques de gramophone, comme l'aspirant Meltzar. Personne n'avait de tête, mais quand les obus jaillissaient des pavillons bleu ciel et éclataient dans une fourmilière, les disques noirs se brisaient avec fracas et redevenaient alors de vraies faces humaines. D'en haut, le lieutenant Kadar voyait gicler les cervelles des disques et les surfaces rayées se métamorphoser en visages plissés de souffrance. Tous les mystères de la guerre, toutes les questions qu'il ruminait depuis des mois s'éclaircirent soudain. On rendait leur tête à ces hommes au moment de mourir. « Bientôt mort ? Très bien. Tenez, voici votre tête. » Là-bas, à l'arrière, on démontait leur tête pour les remplacer par des disques jouant la marche de Rakowski. On les empilait dans des trains, et comme le malheureux Meltzar, comme lui-même, comme tous, ils arrivaient au front, la tête ailleurs. Exaspéré, la boule d'ouate tressautait. Le lieutenant Kadar aurait voulu bondir, crier aux hommes son secret, les exhorter à exiger leur tête. Il le dirait à l'oreille de chacun, de Plava à la mer, d'un bout à l'autre du front, à chaque canonnier, à chaque fantassin, aux Italiens eux-mêmes. Mais oui, à eux aussi, on leur avait vissé à eux aussi des disques sur le cou. Que tous retournent à Vérone, à Naples, à Venise, où au fond des dépôts étaient stockées leurs têtes. Il irait d'homme à homme, il aiderait chacun, ami ou ennemi, à retrouver sa tête. Mais impossible de se remettre à voler. On l'avait rivé par les pieds à son lit, avec de gros câbles, afin qu'il n'allât pas divulguer son secret. Il essaya de l'annoncer d'une voix éclatante, d'une voix qui porterait la vérité de Plava à Trieste, et au-delà, jusqu'au Tyrol, jusqu'à la mer, en Flandre, dans le golfe Persique, comme les trompettes du jugement dernier. Il allait crier comme jamais homme n'avait crié. « Gramophone ! Allez chercher les têtes, que des gramophones !» Mais sa vocifération libératrice se brisa en une plainte sourde. À chacune de ses paroles, une aiguille acérée lui fouillait le cerveau. Une aiguille ? Comment n'y avait-il pas pensé plus tôt ? Sa tête à lui aussi avait été démontée. Lui aussi n'avait sur le cou qu'un disque noir. Dès qu'il se mettait à parler, l'aiguille courait dans les circonvolutions de son cerveau. « Oh non, assez !» Il préférait se taire et garder son secret. Non, pas cette douleur folle dans la tête. Mais l'appareil tournait toujours. Le lieutenant Kadar empoigna sa tête à deux mains et enfonça ses ongles dans ses tempes. S'il n'arrivait pas à arrêter le mécanisme infernal, sa tête allait se dévisser. Une sueur glacée l'inondait. « Miska !» appela-t-il au paroxysme de la peur. Mais Miska ne savait pas que faire. Et le disque tournait, tournait, jouant allègrement la marche de Rakowski. Les nerfs du lieutenant étaient tendus à craquer. Il sentait sa tête se retourner. Déjà, il crut apercevoir son dos. Il fallait la maintenir à tout prix. « Reste, reste, putain de tête, ne tourne pas, ne tourne pas, ne !» Une horrible plainte, un râle et le silence. Quand l'aide-major Blondinet sortit de la salle d'opération, les gémissements de l'ordonnance l'avertirent de loin qu'un lit venait de se libérer dans la section des officiers. Le vieux commandant fit signe au jeune médecin de venir, puis il annonça d'une voix retentissante et pénétrée de respect « Le pauvre gars a enfin cessé de souffrir. Il est mort en vrai Hongrois, la marche de Rakowski aux lèvres. »
Soldat avec du pays, ne mourut plus pour mon parti. Les gars n'ont jamais profité à cette continent l'étranger. Aucun drapeau n'est liquide que sang. Aucun pays, aucun drapeau n'a fait le même semblant. Aucun pays, aucun drapeau n'est liquide que sang. Aucun pays, aucun drapeau n'a fait le même semblant.
Sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita ebbe in cambio una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a passare la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento, e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento, e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.